deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Guerre, au pluriel, c'est le titre de notre émission. Les histoires que vous allez écouter sont plus proches du drame que de la comédie. Issues des mémoires et des imaginaires de leurs auteurs, ces fictions ressemblent parfois à ce qui a existé, à ce qui, nous l'espérons, n'existera plus. Une guerre qui n'en est pas vraiment une, mais qui en a le goût. Trahison, solitude, rancœur, la violence au cœur de soi-même. Le Taiseux, texte de Bernard Sigler, lu par lui-même.
La neige n'avait pas pénétré le sous-bois et la futaie était sombre. Le soleil de février n'infiltrait que quelques rayons, transformant la forêt en une voûte mystérieuse. Le silence ajoutait une dimension mystique à cette cathédrale de troncs élancés. Aucun des deux hommes n'avait ouvert la bouche durant la montée. Habitués qu'ils étaient à travailler ensemble, ils n'éprouvaient pas le besoin d'échanger. Chacun connaissait son rôle et ne gâcherait pas le silence pour énoncer des évidences stériles. Marcel ruminait ses pensées. Toutes étaient tournées vers le passé et pesaient sur son âme. L'absence d'enfants, le départ de Suzanne, la malchance. Ils posèrent leurs cognées, tombèrent les vestes, et sur un signal connu d'eux seuls, engagèrent l'abattage. Les haches résonnaient à présent sous la voûte. Sous les coups scandés et opiniâtres des bûcherons, le sapin se mit à trembler, vacilla et s'effondra à l'endroit prévu. Quand le jour déclina, ils redescendirent dans la vallée. Jean-Marie rapportait que le Grand Lac était tellement gelé que certains prétendaient qu'on pouvait le traverser en voiture, tant la couche de glace était épaisse. Marcel en doutait. Avec la nuit, le froid était devenu rugueux. Une pleine lune réfléchissait la neige dans une lumière laiteuse un peu irréelle que jalousait le soir des sapins. Au seuil de la ferme, la silhouette de Suzanne l'attendait, à contre-jour devant la fenêtre éclairée, les mains repliées sur son châle. Il accéléra, mais la neige retardait son pas. Il maudit l'hiver, trébucha, reprit son élan, releva la tête. Silence glacé. Pas de lumière, pas de Suzanne. Il était seul. Le mirage était récurrent et il se laissa aller à la douleur. En vieillissant, les hommes pleurent. Il remua les cendres, souffla sur quelques braises et avec quelques pommes de pin du petit bois puis des bûches, fit repartir le feu. Épuisé, il s'assit sur une chaise et s'endormit au milieu de sa solitude. L'épaisse fumée et la grande chaleur de l'incendie l'encerclaient, tout brûlait. Stupéfait, il contemplait l'effondrement de la charpente au-dessus de lui. Il se réveilla. L'âtre dégageait une forte chaleur et ne l'avait pas ôté sa vareuse. Il dîna d'une poêlée de lard frit, de jaunotte et d'œufs. Il n'avait plus sommeil. Ce rêve, toujours le même, l'angoissait, et il revoyait l'incendie avec la même précision qu'il y a 10 ans. Un événement pour toute la vallée, qui le renvoyait lui au souvenir d'une trahison. Il en voulait aux Parisiens, des gens célèbres, qui avait débarqué un jour pour faire du cinéma. une espèce de western en plein milieu des Vosges. Il recrutait des figurants et Suzanne s'était proposée. Les Parisiens l'avaient embauchée. Elle avait délaissé son salon de coiffure le temps du tournage, négligeant bigoudi, mise en plis et teinture. Madame jouait à la star. Les grandes gueules, ça s'appelait. Et lui, il aurait bien voulu leur casser la gueule aux Parisiens, à ceux qui avaient fait du gringue à sa Suzanne. Elle s'était amourachée d'un régisseur qui lui promettait la lune. Lorsqu'ils avaient mis le feu à la scierie du voisin, le clou du film, toute la commune s'était regroupée pour y assister. C'était l'attraction de l'année. Marcel en avait les yeux écarquillés, lui aussi. Sans qu'il s'en doute, c'était sa vie qui partait en fumée sous ses yeux. Quand les Parisiens sont repartis, la Suzanne les avait suivis. Elle était partie avec eux. Ils n'étaient jamais allés voir le film. N'arrivant pas à dormir, Marcel se mit au travail. Dehors, on apercevait les étoiles. Orion, Cassiopée, la Croix de l'Aigle et Altaïr au milieu de la Voie lactée. Ce ciel dégagé qui annonçait une journée lumineuse et froide lui parut idéal. Il sortit le vieux GMC, celui que les Américains avaient abandonné à la fin de la guerre, et se mit à charger les bûches entre les ridelles. Son ardeur décuplait, grossissant avec sa rancœur, raffermissant sa détermination. Quand l'aurore commença à luire entre les sapins, le camion était chargé jusqu'à la gueule. Il s'offrit un copieux déjeuner, histoire d'affronter la froidure, la neige et la glace. Puis il monta dans le camion, et lentement, pour ne pas faire chavirer son chargement, il se dirigea vers la ville. Une belle journée, vraiment. Il savoura ces paysages qu'il connaissait depuis toujours, mais aujourd'hui les couleurs lui en paraissaient avivées. Le ciel, d'un gris bleuté et dur, faisait ressortir la blancheur immaculée de la neige. Les troncs des sapins suintaient. Le lac lui apparut au détour de sa méditation, lisse, éblouissant dans la lumière matinale. Les unes après les autres, les lumières de la ville se fanaient. Il n'y avait encore que peu de monde en ville à cette heure. Il s'approcha du centre, rejoignit le lac et fit une pause à l'entrée de la rampe. Puis il fit ronfler le moteur, s'engagea droit devant, sur le lac gelé, se cramponnant au volant de son 15 tonnes.
La guerre, ce n'est pas seulement la violence physique, c'est aussi l'absence, le vide, le manque, tous ces creux provisoires ou définitifs. De la nouvelle qui suit, l'absent est le héros. A victory for all as we go marching on. My faith is getting stronger, ever stronger as I try, with everything that's in me. Août 44. Texte de Dominique Haribert, lu par Michel Frappard.
Depuis deux semaines, Marcel ne dormait plus, ne mangeait plus. Sous la chaleur accablante du mois d'août, sa vie avait basculé. Les soldats allemands étaient arrivés à Corançon en Vercors le 22 juillet. Ils avaient réquisitionné l'hôtel de la Moucherolle, mais ils avaient trop peu de chambres pour les loger tous. C'est comme ça qu'ils étaient entrés dans les maisons et s'étaient installés chez les villageois. Trois d'entre eux logeaient chez Marcel. Ils avaient vite remarqué que la jeune femme de 24 ans était seule avec son bébé et un vieil homme, Émile, son beau-père. Ils l'avaient questionné, l'air de ne pas y toucher. « Dein Marie, travaillez où ?» dans le mari disparu. Marcel avait tenté de gagner du temps en faisant mine de ne pas comprendre. Alors qu'elle leur demandait de répéter les questions, elle réfléchissait à toute vitesse pour trouver une réponse plausible. Elle ne pouvait pas prétendre qu'André était mort ou qu'il l'avait quitté. La maison, les armoires étaient pleines de ses vêtements. Ses chaussures traînaient dans le couloir. Et surtout, il pouvait revenir n'importe quand. Elle finit par expliquer qu'il était parti à Méaudre pour aider son cousin à rentrer du bois pour l'hiver. Elle savait l'argument fragile, si les soldats décidaient de vérifier. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était son beau-père. Très âgé, Émile perdait un peu la boule. Il pouvait vendre la mèche à tout moment. Et un des soldats comprenait plutôt bien le français. Marcel avait beaucoup d'imagination et elle profitait des moments où elle était seule avec Émile pour expliquer à ce dernier pourquoi le cousin de Méaudre avait eu besoin de l'aide d'André. Elle ajoutait des détails et des anecdotes pour donner plus de corps à cette histoire. Elle avait inventé des préparatifs au mariage du cousin, préparatifs qui demandaient d'autant plus de travail que le ravitaillement était difficile, même à la campagne. Les jours passaient. Les soldats ne quittaient pas le village. Ils fouillaient les maisons, les granges, les étables, ainsi que les bois alentours. Ils rentraient à la tombée de la nuit, harassés par les longues marches en montagne sous le soleil. Les trois soldats qui logeaient chez Marcel étaient plutôt aimables et polis. Ils racontaient leur journée et jouaient volontiers avec Michel, le bébé de Marcel. Marcel, bien que poli, restait distante et méfiante. Un des soldats, le plus âgé, lui faisait peur. Il était toujours renfrogné et ne lui disait jamais un mot. C'est lui, elle en était sûre, qui lui avait volé la montre pendue au clou de la cuisine. La montre d'André. Marcel veillait à ne jamais rester seul avec ce soldat. Quand elle allait s'occuper des poules et des lapins, elle emmenait Émile avec elle pour qu'il surveille Michel et l'aide à ramasser les œufs. Curieusement, elle était moins inquiète quand les trois soldats étaient ensemble. Il lui semblait que les deux plus jeunes étaient bien élevés et qu'ils avaient à cœur de bien se comporter avec elle. D'une certaine manière, elle comptait sur eux pour surveiller le plus inquiétant. Le 6 août 1944, à 7 heures, alors que les soldats buvaient leur café dans la cuisine, André entra dans la cour et appela Marcel. « Je ne fais que passer, donne-moi vite du pain, des œufs et des patates. On manque de tout au maquis. » Il fut arrêté sur le champ, sans ménagement. Les soldats l'emmenèrent, Marcel ne le revit jamais. Le soir même, à 16 heures, il fut fusillé au col du Liorin avec un autre maquisard du village.
FM 91.2, les ateliers des Valouna.
Dans les temps de tragédie, surgissent les héros et les anti-héros, les guerriers et les porteurs de paix, l'inhumain et l'humain.
Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is.
Le Palot, texte de Patrick Letu, lu par Michel Lannes.
Pour ne pas avoir le profil de la situation, il ne l'avait pas. Mais qui l'avait ? On savait peu de choses de lui, à peine son nom et celui de son village, mais quelle importance ! Il était trop grand pour qu'on le perde, trop maigre pour qu'il effraie. Il avait le geste gauche et la parole rare. Son visage, imberbe, trahissait un reste d'enfance qu'il avait peine à dissimuler. Quelle tristesse ! Si effacé et si pâle qu'on l'avait surnommé le Palot. Quelle avanie ! Ce soir-là, la pluie fine pénétrait les corps engourdis par la froidure des jours de fin d'automne. Le ciel était entre chien et loup. La lueur du jour s'estompait pour laisser place à la nuit, qui ne manquerait pas de recouvrir le morne paysage de son voile noir et glacial. On apercevait encore la ligne allemande. Des hommes, qui se croyaient hors de vue, avaient sauté hors de leurs tranchées. Ils chargeaient sur un brancard le corps d'un de leurs camarades, tombé lors d'un précédent assaut. Le Palot, qui était de faction, observait la scène avec attention. Il percevait encore distinctement le pénible labeur des silhouettes ennemies, scrutait chaque mouvement, accompagnait chaque geste, devançait chaque intention. « Feu !» ordonna le lieutenant, surgi à l'improviste. « Feu !» Le jeune homme orienta son arme vers les trois malheureux, visa longuement, puis baissa la garde. Se retournant vers l'officier qui hurlait ses ordres de tir en éructant des noms d'oiseaux, il baissa les yeux. Son regard fixait ses godillots comme noués à leurs lacets. D'une voix fluette, tremblante, à peine audible, il souffla « Je ne tire pas sur des hommes désarmés ». L'espace un instant, il me sembla que le gradé allait le frapper. Mais des anciens, alertés par les cris, s'étaient précipités pour s'interposer. Ils couvraient le gamin de leur corps trempé, érigeant ainsi une barricade infranchissable. L'officier n'insista pas et s'éloigna en maugréant. Nous restions tous silencieux, ahuris par cette folle bravade. Nous étions conscients qu'à ce moment, une lueur d'humanité venait éclairer cette tragédie. Et c'était le môme qui avait allumé l'étincelle. La vie reprenait du sens. Au loin, trois hommes ne sauraient jamais à qui ils devaient de vivre. Et cela était beau. Ainsi, dans cette boucherie inhumaine, était-il permis de raisonner, d'agir autrement que par l'obéissance aveugle et la haine ordinaire. Cela fait déjà quelques semaines que tous les clochers du pays ont carillonné l'armistice. La vie reprend des couleurs, les rues s'animent, les commerces se remplissent, les guinguettes rouvrent. Depuis quelque temps déjà, j'ai décidé de rendre visite au Palot. La grille, à l'entrée de sa demeure, grince affreusement lorsque je la pousse. Les graviers crissent sous mes brodequins. J'avance d'un pas mal assuré. Je tiens à la main quelques fleurs sauvages que j'ai cueillies sur le chemin. Au fond d'une allée, je me penche et les dépose délicatement au pied de la croix. Je ne vois qu'elle au milieu des centaines qui l'entourent. Un rayon de soleil perce timidement les nuages et éclaire son nom, son prénom, au-dessus de deux dates. Il repose ici entier. Il a échappé aux obus qui vous expédient au ciel par petits morceaux. Une simple balle a suffi. Une balle tirée par l'un des nôtres, comme si celle de l'ennemi ne suffisait pas. Le lieutenant était fourbe. Après l'altercation, il avait rédigé un rapport détaillé à l'attention de l'état-major pour refus d'obéissance, refus de combat. Inexorablement, la machine infernale s'était emballée, celle qui broie les destins, qui ruine les vies. Arrestation, détention, conseil de guerre, condamnation, exécution. Pas de place pour la compassion. Il me reste une dernière résolution à accomplir et pas des moindres, des plus délicates pour tout dire. Aller expliquer à une mère que son enfant n'est pas celui décrit par les militaires, que son nom mérite de figurer sur le monument aux morts au même titre que celui des braves tombés au champ d'horreur.
Maybe tonight, maybe tonight.
Quand la guerre s'achève, il en reste les drapeaux et les empreintes infinies. Qui libère de la solitude ceux qui n'ont plus personne? Quand s'achève vraiment la guerre pour les enfants? La bannière étoilée. Texte de Lydie Bossard, lu par Marie-Jeanne. La température est glaciale. Il pleut sans discontinuer. Nous grelottons dans notre pension pour orphelins en ce mois de février 1945. Il n'y a plus de bois, plus d'électricité, plus rien à manger. Nos vêtements sont usés, nos chaussures très endommagées. Pour nous réchauffer, nous allons courir, sans joie, dans le jardin, en attendant d'aller dévorer le bouillon de mauvais légumes et le parcimonieux morceau de pain rassis que l'on nous distribuera, accompagné d'un seul verre d'eau. Nous sommes retenus du côté allemand de la ligne qui délimite la poche de Saint-Nazaire. Ce sont les Allemands qui nous livrent ce pain desséché. Comme mon amie Anne, je suis orpheline depuis quelques années. Nous avons toutes les deux le même âge, 13 ans. J'ai été recueillie avec mes frères et sœurs, à la mort de nos parents, dans cette pension religieuse pour orphelins. Mais depuis quelques mois, mes frères et sœurs sont partis dans d'autres foyers pour servir dans des fermes ou pour entrer au petit séminaire. On a bien voulu me dire qu'ils sont tous du côté français, libérés par les soldats américains. Je suis la plus jeune de la fratrie éclatée. Depuis cette séparation, je pleure. Je suis restée du mauvais côté. Pourquoi ? De temps en temps, une religieuse vient nous solliciter, Anne et moi, pour monter dans le grenier de notre orphelinat parce que nous sommes les plus agiles. On grimpe sur un escabeau pour regarder par une fenêtre minuscule située en hauteur. Nous devons dire quel est le drapeau qui flotte sur la mairie. On nous a décrit les drapeaux allemands, américains, canadiens, britanniques, français et même australiens. Nous saurons si nous sommes libérés ou non, en fonction du drapeau qui flottera sur la mairie. Pendant des mois, nous n'avons vu que le drapeau allemand. Quand des bombardiers britanniques survolent les ruines de la ville, on nous fait descendre à la cave. Je suis terrorisée. Avec mon amie Anne, nous nous prenons dans les bras l'une l'autre, en attendant la fin du bombardement. Puis, on nous fait remonter dans les dortoirs, au premier étage pour les filles, au second pour les garçons. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, submergée par la peur. Je me souviens du naufrage du Lancastria, bombardé par l'aviation allemande, et le sabotage de la forme Joubert par des commandos britanniques dans le port de Saint-Nazaire. Des explosions, du feu, de la fumée, des morceaux de métal, des corps humains déchiquetés. Je vis dans la terreur, mais dans l'espoir de voir un drapeau avec des étoiles flotter sur un toit. Un jour, nous sommes tous réunis dans le réfectoire. On nous annonce qu'un accord a été trouvé entre les Allemands et les autorités françaises. les civils français seront évacués de la poche de Saint-Nazaire vers la terre libérée au fur et à mesure que des trains pourront arriver dans la gare nazérienne. Il faut d'abord remettre en état les voies ferrées, détruites par les bombes britanniques. En attendant, nous, les orphelines, nous sommes employés au nettoyage de l'orphelinat et de la chapelle, à la lessive, dans de l'eau glacée qui nous bleuit les mains, à quelques travaux de couture difficiles en raison de nos doigts engourdis. Nous épluchons des pommes de terre, de temps en temps, quand les Allemands veulent bien nous en donner. Au mois de mars 1945, un office religieux se tient dans la chapelle de l'orphelinat pour honorer des personnes tuées et blessées lors de l'explosion des mines dans le marais de la Boivre, inondées intentionnellement par les Allemands. C'est confus pour moi, mais je comprends malgré tout que c'est un désastre de plus et qu'il y aura encore des orphelins. Plus les jours passent et plus je me sens lasse, anéantie. Je vis dans la peur de la minute qui vient. Je ne suis pas la seule. Anne est comme moi. D'autres orphelins aussi. Je vois à leur comportement. J'ai entendu que tout le territoire français est désormais libéré, sauf cette poche de Saint-Nazaire qui reste occupée. Pourquoi ? Je me prends à rêver lorsque je vois les étoiles dans le ciel, après avoir légèrement écarté le rideau de ma fenêtre. Ces étoiles, je voudrais bien les voir en vrai, sur le drapeau qui remplacera le pavillon allemand, l'américain, l'australien. Ce matin d'août 1945, grand remue-ménage, nous descendons au réfectoire. Tous debout, nous apprenons que nous sommes évacués vers Nantes. Là, nous serons dispersés vers d'autres orphelinats. Je comprends alors que je vais être séparée de mon amie Anne. Le chagrin me prend. Je pleure. Je ne suis pas la seule. Nous montons dans des camions réquisitionnés. Nous roulons vers les décombres de la gare de Saint-Nazaire. Nous passons devant la mairie. Et là, sur le toit du bâtiment, je le reconnais. C'est le drapeau américain, la bannière étoilée. « Regarde, me dit-on, c'est le drapeau de la liberté !»« Liberté ?» Je suis enfermée dans un orphelinat. Je n'ai plus de parents. Mes frères et sœurs sont disséminés. Je vais perdre mon amie Anne. Je ne sais pas où je vais être emmenée. Je suis seule. Désespérément seule. Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Voix Marie-Jeanne. Réalisation technique Luc Richard.
JTFM 91.2. Les ateliers d'Eva Luna.
Vous pourrez retrouver l'émission que vous venez d'entendre en podcast sur le site de JTFM.